Bonjour Thomas Lilti.
Bonjour.
Vous êtes présent à Genève pour l'avant-première de votre film, le cinquième, Un métier sérieux. Et vous quittez le monde de l'univers médical qui vous était proche pour l'univers des enseignants qui vous est assez proche familialement.
Oui, alors qui est moins proche parce que c'est pas le métier que j'ai appris, contrairement à un médecin, mais par contre, oui, je suis fils de prof. Donc j'ai une mère qui est prof, un grand frère qui est prof, des oncles et des tantes, mes grands-parents, les quatre grands-parents étaient instituteurs et profs. Donc j'ai baigné dans cet univers.
Et quand vous avez écrit, vous avez retrouvé des comédiens et des comédiennes que vous aviez déjà fait tourner, jouer. Est-ce que vous avez écrit en pensant à eux ?
Pour Vincent Lacoste et François Cluzet, j'ai vraiment écrit en pensant à eux. J'avais cette idée de les réunir dans un film. J'avais envie de les voir ensemble. Je pensais qu'il y avait une familiarité. Et puis comme j'avais eu des belles aventures cinématographiques avec chacun d'entre eux, l'idée de les réunir était presque une superstition importante pour moi. Mais je dirais, donc ça, c'est vraiment pour eux que j'ai écrit. Après, les autres rôles, je n'avais pas obligatoirement bloqué des idées d'acteurs. Mais il y avait l'envie, de toute manière, et il y a toujours l'envie, quand j'écris et quand je fais des films, de penser à une troupe, en quelque sorte. Cette idée de troupe, de collectif, qui est au cœur de mon travail, de toute manière, mais qui est vraie aussi dans ma façon de fabriquer, et pas uniquement dans les histoires que je raconte, était très importante pour moi, d'avoir comme ça autour de moi des acteurs en qui j'ai confiance et qui ont confiance en moi. Alors c'est vrai pour les rôles principaux, Louise Bourgoin, William Lebgill, Bully Lanners, mais c'est vrai aussi pour plein de petits rôles dont on parle jamais, mais qui sont des gens qui me suivent de film en film et qu'on retrouve dans tous mes films, dans tous les rôles plus secondaires.
Alors justement, je rebondis sur vos propos, vous venez de mentionner une troupe, moi j'aurais même dit une famille qui se constitue, famille de cinéma. Vous avez mentionné Louise Bourgoin. On la voit dans un rôle totalement à contre-emploi, surprenant, où là, elle semble affaiblie, elle n'est pas très jolie comme d'accoutumée, elle est remise en question dans son métier, elle en doute, elle est presque au bord de la crise de nerfs, et en plus, elle sera déstabilisée par une inspectrice.
Louise Bourgoin, j'ai fait quand même deux saisons, là même une troisième qui est en cours de fabrication d'une série qui s'appelle Hippocrate, donc une série hospitalière, où elle a le rôle principal, donc je la connais très bien dans le travail. Je sais où moi je suis capable de l'amener, disons, ailleurs que là où on l'a connue longtemps, en effet, déjà dans Hippocrate, elle joue pas la jolie fille. J'ai déjà essayé de travailler avec elle autre chose. Et donc là, c'était l'idée d'aller encore un petit peu plus loin, d'aller vers un peu plus de fragilité, d'aller vers un peu de raideur, un peu cette difficulté de communication. Et c'est vrai que j'avais envie d'essayer de l'amener encore un pas de plus par rapport à la série Hippocrate, loin de son image, de l'image qu'elle avait longtemps véhiculée de la jolie fille.
Thomas Lilti, vous avez mentionné, déjà avec François, on a parlé de tous les acteurs, comme on a peu de temps, on va aller directement au but, film choral, est-ce que c'était plus difficile pour vous à gérer, à avoir une osmose à l'écran ?
Non, c'était pas plus difficile parce que d'une part, c'est des acteurs que je connaissais et qui s'apprécient beaucoup entre eux. Par contre, film choral veut dire scène de groupe surtout, parce que moi j'aime pas trop le terme de film choral, surtout pour ce film là parce que je pense que c'est un film de groupe. C'est pas toujours la même chose. Pour moi, le film de groupe, c'est-à-dire que le personnage principal du film est un groupe. Le film choral, je dirais que c'est un film où on suit plein de trajectoires d'individus, et puis parfois ils se croisent, parfois ils se croisent pas. C'est pas obligatoirement un film de groupe. Moi, la particularité de ce film, c'est qu'il y a énormément de scènes de groupe, de scènes où ils sont tous là, et c'est ça la difficulté. Et je dirais que moi, ce sont des scènes que j'adore tourner, parce que j'ai ma méthode, et je crois que j'y arrive assez bien à filmer tous ces gens qui parlent ensemble. La difficulté des scènes de groupe, c'est surtout l'énergie que ça demande. C'est très long, et ça demande beaucoup d'énergie, parce que les acteurs sont des gens très impliqués, et puis qui peuvent avoir des hauts et des bas au cours de la même journée, et donc il faut gérer tout ça, leur énergie, et réussir à les avoir dans la bonne énergie en même temps et au bon moment. Donc c'est ça le plus difficile. Mais sinon, non, ça a été plutôt source de grand plaisir de pouvoir faire toutes ces scènes avec tous ces acteurs-là.
Vous avez choisi de nous les montrer, tous ces professeurs, dans trois situations très différentes, au travail, en particulier dans la salle des profs ou alors au réfectoire, à l'extérieur, dans leur famille, et puis avec les moments d'enseignement, avec les élèves. Vous aviez l'envie de répartir justement toutes ces facettes pour qu'on puisse bien comprendre ce que représente la vie des enseignants.
Le point de départ de l'envie de faire ce film, c'est de se dire, j'ai envie un tout petit peu, grâce à la fiction, non pas de raconter tous les travers de l'école publique aujourd'hui et de tout ce qui ne fonctionne pas. Ce n'était pas ça le but du film. Le but du film, c'était de se dire, c'est quoi ce métier en fait ? Qui sont ces hommes et ces femmes qui sont des enseignants ? Qui sont ces hommes et ces femmes qu'on voyait quand on était gamin en classe, mais dont on ne connaissait même pas le prénom ? On ne savait pas ce qui se passait quand ils se retrouvaient à la cantine ou quand ils étaient dans la salle des profs, et on ne savait encore moins ce qu'ils vivaient quand ils étaient chez eux, dans leur intimité. C'est ça que j'avais envie de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est dévalorisé, qui est mal considéré, et on voit bien qu'on passe notre temps à parler à leur place, on passe notre temps à leur expliquer comment ils... Quand je dis « on », c'est les parents d'élèves, c'est les politiques, c'est parfois les élèves eux-mêmes. On passe notre temps à leur dire comment ils devraient faire leur métier. Alors que ce métier, on ne le connaît pas, on le connaît mal. Et la fiction, elle peut permettre ça. J'ai eu l'impression de dire, ben voilà, allons, faisons connaissance. Qui sont-ils ? Parce que ce métier, il est dur, il est solitaire, il est confrontant. Et pourtant, il a aussi quelques vertus. Il donne beaucoup de sens à l'existence. C'est un métier qui apporte beaucoup de joie dans le sens où même s'il est très violent, il donne de la joie de se sentir utile. Et ça, je pense que beaucoup de gens sont malheureux aujourd'hui d'avoir des vies professionnelles où ils ne savent plus très bien pourquoi ils font leur métier.
Oui, c'est ce qu'on voit à travers justement le personnage de Pierre, qui se remet en question, qui comprend qu'il ennuie ses élèves, qu'il aimerait savoir où le problème est survenu. Et puis on comprend aussi quand on le voit avec sa femme échanger et travailler, que c'est un métier qui demande beaucoup d'implication, puisqu'il y a beaucoup de travail, contrairement à la notion un peu publique, où on croit qu'ils sont en vacances toute l'année, ils travaillent énormément à l'extérieur.
C'est beaucoup de travail, ça a été démontré, c'est 43 heures de travail par semaine, selon toutes les études, minimum, pour les profs. Et dans ces 43 heures-là, il y a souvent 16, 17, 18 heures de cours. Et les cours, c'est violent. C'est dur, un cours. On est seul face à 30 élèves, c'est solitaire, et c'est une heure de travail... On ne peut pas se cacher, quoi. C'est pas une heure, on travaille un peu, mais pas trop, on lève le pied. Non, on est face aux élèves. Et je pense que tant qu'on ne l'a pas pratiqué, tant qu'on n'est pas allé voir ce que c'était vraiment, on ne peut pas imaginer la difficulté, la dureté de ce métier. De toute façon, c'est comme les soignants, ce sont des métiers qui sont extrêmement durs, qui sont malheureusement pas du tout valorisés à leur juste valeur. Et ce manque de valorisation et donc de déconsidération, ce qui est vécu comme une grande déconsidération, et la raison pour laquelle il y a une perte de vocation aujourd'hui. Pourquoi on a du mal à recruter des soignants ? Pourquoi on a du mal à recruter des enseignants ? C'est tous ces métiers non marchands qui, dans nos sociétés, sont peu mis en valeur.
Et justement, par rapport à ce que vous mentionnez, il y a aussi des manques de moyens, en tout cas dans l'école, dans l'Hexagone, peut-être moins en Suisse. Mais on voit que les enseignants, les pauvres, ils sont obligés de recourir à Internet, trouver des tutos, des vidéos pour enseigner.
Oui, voire même, à un moment donné, ils trouvent une solution pour essayer de faire comprendre un concept mathématique avec des oranges. Bon, ben, les oranges, c'est évident qu'il va les acheter avec son argent. Mmh. Et ça, c'est la réalité de l'éducation nationale aujourd'hui en France. L'outil est très abîmé, il manque de moyens. Et puis surtout, ça va avec la déconsidération des profs, quoi. Comme on ne les considère pas, on ne leur donne pas les moyens de bien faire leur métier. Et ça provoque beaucoup de souffrance. Vous savez, la souffrance au travail, c'est essentiellement le fait de ne pas pouvoir bien faire son travail. C'est surtout ça. Et je pense que les profs, on les empêche de bien faire leur travail. Et à ça se rajoute une chose, c'est qu'en plus, l'école est le réceptacle de tous les maux de la société. Les maux de la société s'infiltrent par tous les pores de l'école. Et souvent, on dit aux profs, bah, ça marche mal, c'est votre faute. Non. La société va mal, donc l'école va mal, mais on ne peut pas les tenir responsables du fait que l'école aille mal. C'est vraiment très très dur comme métier, mais en même temps, moi, en m'interdisant d'aller dans un collège trop difficile, en essayant de raconter, pour ne pas être vampirisé par les problématiques justement sociales, les problématiques de harcèlement, d'intégrisme, de religion, de terrorisme, et j'ai essayé de recentrer le film sur... la vie des profs, qu'est-ce que c'est qu'un prof ? Et en ça, je crois avoir réussi à faire un divertissement, quoi, une comédie humaine quand même. C'est on suit des personnages dans leur vie de tous les jours. C'est une chronique sur la vie des enseignants.
C'était justement une de mes réflexions, contrairement à ce qu'on a pu voir précédemment, où ce sont souvent des établissements à problème. Là, justement, c'est un établissement où tout se passe bien.
Et disons qu'il y a des problèmes, mais c'est pas ce qu'on appelle un établissement à problème.
Voilà. Et pour élaborer toute cette palette d'enseignants, est-ce que vous avez pensé à des enseignants qui vous ont marqué ?
Oui, bien sûr. Bah, il y a quelques profs qui m'ont marqué en bien ou en mal, d'ailleurs. Mais le prof que joue François Cluzet, c'est un prof que j'ai connu qui nous lisait comme ça pendant 1 heure des bouquins, nous décrochait au bout de 5 minutes et le temps semblait interminable. L'heure de cours semblait durer 4 heures et on n'avait qu'une hâte, c'est que ça s'arrête. Et on retenait pas grand-chose et on sentait bien que ça faisait 30 ans qu'ils faisaient le même cours, qu'ils s'étaient jamais remis en question. Il y a des profs comme ça qui... La prof que joue Lise Bourgoin, je l'ai connue un peu, cette prof qui croit tout bien faire et qui en fait rien de bien parce qu'elle a, elle a aucun contact sincère et réel avec ses élèves. Donc ce n'est que de la confrontation et de l'affrontement. Donc ça, c'est terrible. Et il y a beaucoup de profs qui sont dans cette difficulté-là. Mais il faut les aider, il ne faut pas les condamner. Mais comment faire? C'est pas simple.
Il faut aussi donner les moyens pour les aider.
Ouais. Et donner les moyens pour les aider, c'est surtout permettre aux profs, je pense que c'est très important, et c'est ce que je montre dans le film, c'est que cette solidarité qui est assez rare dans les établissements scolaires et qui est très présente dans le film, c'est une solution pour rendre la vie de prof moins difficile. Et cette solution, c'est cette solidarité, et pour ça, il faut du temps et des moyens, en fait. Il faut que les profs aient du temps. S'ils passent leur vie en cours et puis vite ils doivent aller corriger leurs devoirs, etc., s'ils n'ont pas des temps collectifs de travail, des moments où ils peuvent se retrouver pour parler de leur métier, pour s'entraider, si ça, c'est pas prévu dans leur emploi du temps, bah, la solidarité, elle a peu de chances d'émerger.
On retrouve plusieurs comédiens et comédiennes avec lesquels vous avez déjà tourné. Est-ce que vous êtes en train de vous constituer une famille de cinéma? Et comment vous travaillez avec eux? Est-ce que c'est très orchestré? Est-ce que vous laissez une part de place à la suggestion, à l'improvisation?
Oui, c'est certain que le fait d'avoir des acteurs que j'aime autour de moi, avec qui j'ai déjà travaillé, que je connais bien, ça me permet de travailler en confiance. Ça me permet, je crois, d'aller plus loin encore dans mon travail. Et ça, c'est quelque chose d'important et d'essentiel. J'aime, et surtout ma méthode de travail qui a tendance à... qui est vraiment singulière. Alors, elle n'a rien de révolutionnaire, mais elle est singulière. C'est qu'on tourne beaucoup, les caméras sont tout le temps en tournage. J'essaie d'avoir que les acteurs s'arrêtent le moins possible de travailler dans la journée, soient tout le temps en train de tourner. C'est vrai que je gagne du temps avec des acteurs qui connaissent déjà cette méthode, même si les nouveaux l'appréhendent très rapidement. Mais voilà, je me dis, au moins ce temps-là, il est gagné. Je n'ai pas à leur expliquer comment je vais faire. Ça, j'aime. Et puis, c'est vrai que je fais beaucoup d'improvisation. Alors, par exemple, François Cluzet, lui, il a l'impression qu'on n'improvise pas beaucoup sur mes plateaux. Mais si on demande à Vincent Lacoste, il va dire qu'on improvise beaucoup. Donc, c'est très variable d'un acteur à l'autre. Mais
Les
je dirais
sensibilités
que,
personnelles.
ouais, je dirais que l'improvisation, c'est plutôt parce qu'on cherche une humeur. Donc on improvise, on s'éloigne un peu du texte pour chercher l'humeur. Une fois qu'on a l'humeur, on revient au texte. On revient toujours à la situation, de toute manière. Tout est très écrit. Les situations sont très écrites. Mais par contre, il arrive parfois que, ben voilà, il y a la liberté de rajouter quelques mots, de rajouter une phrase, de rajouter une idée. Puis on la garde ou on la garde pas. Mais c'est absolument pas l'enregistrement du scénario, le tournage, pour moi. C'est un lieu de recherche, en fait. Le plateau est un terrain
D'émulation.
d'émulation, bien sûr, et de recherche.
Thomas Lilti, justement, là vous êtes dans le milieu de l'enseignement, cinquième long métrage, vous en avez consacré quatre à l'univers qui vous était
Trois à l'hôpital.
trois à
Le premier ne
l'hôpital.
parlait pas du tout de médecine, mais trois à l'hôpital.
Voilà. Et là, est-ce que justement vous allez continuer votre recherche, peut-être vos
Peut-être.
pérégrinations, dans d'autres univers?
Sûrement, en tout cas, d'autres univers, c'est certain, je vais aller en explorer d'autres, j'espère, en tout cas. L'univers de l'éducation, je ne sais pas si j'en ferai de films dessus, peut-être, parce qu'on pourrait en faire des... Il y a de quoi faire et de quoi raconter des histoires et des belles histoires. Mais en tout cas, c'est vrai que de raconter l'investissement dans sa vie professionnelle et le sens qu'on peut trouver à son métier et comment on trouve du sens dans son métier, c'est quelque chose qui, de toute façon, est source d'inspiration pour moi. Oui.
On pense à ces enseignants, comme votre médecin de campagne, il y a la vocation, c'est vraiment un engagement entier, complet. Et par contre, la médecine, vous faites un petit clin d'œil dans ce film avec le personnage interprété par Boulay Lanners.
Oui, le personnage de Boulay Lanners, c'est le père de Vincent Lacoste dans le film, qui est donc
Benjamin.
un Benjamin, qui est donc un médecin. Et oui, c'est ce petit clin d'œil sur aussi mon père qui est médecin et sur le fait que bah, il y a une dichotomie entre le médecin libéral, qui a le sentiment justement de faire un métier sérieux, de faire un métier qui est reconnu socialement, qui est valorisé, contrairement à l'enseignant qui pourtant fait un métier certainement tout aussi essentiel. mais qui n'est plus à cataloguer et ranger dans la catégorie des métiers sérieux qu'on souhaite pour ses enfants.
Il y a 100 ans.
Contrairement à il y a 100 ans. Mm. Aujourd'hui, on ne souhaite plus à ses enfants de devenir prof, alors que pourtant, on devrait, ça devrait être un métier sérieux.
C'est un des piliers de la société.
Exactement.
Et est-ce que, dans votre film, vous avez voulu non seulement rendre hommage au corps enseignant, qui est quand même malmené, qui est souvent critiqué, mais aussi susciter peut-être des vocations, en montrant qu'il y a des établissements où tout se passe relativement bien?
Oui, j'ai envie de dire... en fait, je crois que quand on voit le film, qui reste un divertissement et qui est quand même une comédie, je crois qu'on se dit, en tout cas, il y a quelque chose de beau dans ce métier et ça peut donner envie de faire ce métier. Parce que c'est surtout le fait de trouver du sens à ce qu'on fait. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est qu'à partir du moment où ce qu'on fait a du sens et rend la vie un petit peu plus riche et un peu plus dense, je pense qu'on peut se dire que ça vaut le coup de le faire. Je crois que le grand drame des gens, c'est... Déjà, quand ils ont la chance d'avoir un métier, c'est pas mal, mais quand ils ont une vie professionnelle qui n'a pas de sens, je pense que c'est terrible à vivre.
Et qu'est-ce qui vous a séduit dans le cinéma pour, quels sont les cinéastes ou les comédiens qui vous ont amené à vraiment vous vouer concrètement, après la médecine, au 7e art?
Il y a énormément de cinéastes, c'est très difficile d'en détacher un, parce qu'en plus ça évolue beaucoup en fonction des périodes de ma vie. Faut pas croire que j'ai fait de la médecine et puis après je me suis dit tiens je vais faire du cinéma. Moi j'étais cinéphile, je voyais beaucoup de films quand j'étais jeune et puis à l'âge de 17-18 ans quand j'ai commencé mes études de médecine je me suis dit ce que j'ai envie c'est de faire du cinéma et j'ai commencé à faire du cinéma en même temps que mes études de médecine et d'ailleurs quand je fais mon premier long métrage je suis toujours étudiant en médecine donc j'ai vraiment mené les deux de front et évidemment on s'est passé par une cinéphilie donc ça a pu être au début... le cinéma américain, ça peut être le cinéma noir américain, ça peut être la nouvelle vague, et puis après mes goûts se sont aiguisés, je suis allé vers des choses plus pointues, du cinéma japonais, j'ai beaucoup aimé Kurosawa, Mizoguchi, du cinéma britannique, cinéma italien, découvert tout le cinéma italien de Visconti à Rossellini, en passant par Antonioni ou De Sica, donc... J'ai une cinéphilie extrêmement éclectique et hétéroclite, très variée, et puis parfois il y a des films qui m'ont marqué, et qui, ça va être, un coup ça a été L'Aurore de Murnau qui m'a profondément marqué, ça va être Barberousse de Kurosawa qui parle de l'histoire d'un médecin au Moyen-Âge au Japon, voilà, il y a des films qui ont été des films un peu pivots. Mais c'était Taxi Driver de Martin Scorsese quand j'avais 17 ans, ou Les 400 coups de François Truffaut. Bon, ça peut être très varié comme ça, et il y a eu des jalons en effet, mais c'est une cinéphilie éclectique.
Et parmi cette cinéphilie, puisqu'on est en Suisse, je vous demandais s'il y a eu quelques Suisses parmi eux.
Le plus célèbre en France, c'est Jean-Luc Godard, qui a été très important pour moi quand j'avais une vingtaine d'années. Nombre de ses films m'ont marqué. Comme beaucoup de spectateurs, j'ai un petit peu décroché sur les dernières années et sur, on va dire, sa dernière époque. J'ai moins compris ce qu'il essayait de raconter. Il y a deux Suisses dont j'aime bien le travail, qui sont des contemporains, qui sont à peu près des gens, je pense, de ma génération. Il y a Frédéric Mermoud, qui est un cinéaste dont je suis souvent les films et qui a sorti un film récemment qui s'appelle La Voie Royale et qui a la particularité d'avoir des thématiques assez proches avec le film Première Année que j'ai fait il y a quelques années sur les études supérieures et donc je trouve le film réussi et je ne le connais pas personnellement mais je trouve qu'il a toujours un cinéma intéressant et un autre Suisse dont j'aime bien le travail, alors c'est plus irrégulier, il y a certains de ses films que j'ai beaucoup aimés, d'autres que j'ai pas vus et un que j'avais un peu moins aimé, mais peu importe, je trouve qu'il a énormément de talent, c'est Lionel Bayer, qui est un formidable cinéaste et dont j'essaie de voir un peu tous les films à chaque fois qu'ils sortent.
Ça va le faire plaisir de vous entendre, mais je pense que c'est réciproque. Ce soir, vous avez l'avant-première au Cinéma City. Alors, on vous souhaite plein de succès. Est-ce que vous avez déjà eu beaucoup d'avant-premières en France et quelle est la réaction du public?
En France, il y a eu beaucoup d'avant-premières et la particularité, alors ça, c'est un peu la particularité de ce film, c'est qu'il est sorti en France il y a 15 jours. Donc il y a un petit décalage entre la France et la Suisse pour le coup, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc je connais déjà l'accueil. En France, on a eu un très bon accueil. Le film est voilà, marche très bien, plutôt ce qu'on appelle un succès, tels qu'ils peuvent être aujourd'hui avec, en période post-Covid, avec la concurrence et puis le très beau temps du mois de septembre. Mais voilà, le film a rencontré son public et les retours sont très bons. Et surtout, le film a été à la fois apprécié des enseignants, mais surtout, le film, il a été aimé des familles. Et ça, je suis content. Il y a beaucoup de gens qui sont allés avec leurs enfants aussi, qui sont des élèves. Et le film s'adresse aussi aux élèves, quoi. Et ça qui me plaît. Parce que quand on est élève, on se demande un peu qui sont ces hommes et ces femmes qui sont devant nous quand on est en classe. Et de pouvoir se dire, bah, en fait, c'est pas juste des profs, quoi. C'est des êtres humains avec une vie intime, une vie personnelle. C'était un peu un des enjeux du film.
Oui, montrer leur humanité. Ouais. Thomas Lilti, on doit bientôt vous quitter. Rapidement, pour savoir comment vous travaillez. Est-ce que là, vous prenez un temps de répit entre les films ou vous êtes déjà en train d'écrire ?
Bah, je suis en train d'écrire parce que je suis en train de faire la saison 3 d'Hippocrate. Donc, j'ai déjà tourné 3 épisodes, il en reste encore 3. Donc là, je suis en train de finir d'écrire et je commence le tournage en novembre. Donc il n'y a pas de répit, non, jamais.
Merci Thomas Lilti.
Merci.
Bon succès.
Merci beaucoup.
Voilà, juste.
Top. Hop. Ça,